Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous nous écoutez à Menaka à travers la radio ADAR 91.9 FM. Mesdames et messieurs, merci de choisir Studio Tamani pour vous informer. Au sommaire de cette édition, la ville d'Andérabukane dans la région de Menaka se vide de sa population. Ces déplacements massifs seraient dus aux menaces des groupes terroristes. Respect des exigences de la sécurité des denrées alimentaires, une vingtaine d'agents de l'Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité ont été outillés sur la norme internationale ISO 22000. Coupe du monde U17 Indonésie 2023, le duel Mali-Maroc, c'est ce samedi à midi. Le coach Soumaïla Koulibaly rassure que l'équipe est prête pour affronter ce match. Les détails de ces titres dans une poignée de minutes avec Juliette Koulibaly. Salim Djouara assure la technique. Auditeurs et auditrices, bienvenue à ce journal. La ville d'Andérabukane se vide de ses habitants. Selon des sources jointes dans la ville de Menaka, plusieurs ménages sont déjà arrivés à Menaka et continuent d'arriver encore. Certaines familles se sont dirigées vers le Niger. Cette situation fait suite à l'occupation de la ville d'Andérabukane depuis plus de 2 ans par des groupes terroristes. Au même moment, les forces armées de défense et de sécurité poursuivent leurs opérations de sécurisation. Les détails avec Hamse Toutouré et Mohamed Ag Issa Fétan.
Ils sont plusieurs ménages à affluer vers Menaka. Beaucoup d'entre eux sont déjà sur place et d'autres continuent de venir, ont confirmé des sources jointes par nos soins. Certaines familles ont même pris la direction du Niger, selon toujours ces mêmes sources. Les raisons de ces déplacements massifs des populations s'expliquent par la psychose suite à des frappes aériennes, rajoutent des populations locales. Beaucoup craignant pour leur sécurité, préfèrent déserter, explique-t-elle. Il faut rappeler que depuis 2 ans, l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara, est présent à Andérabukane. Au même moment, les opérations des forces armées continuent à travers le pays. Dans un communiqué publié ce jeudi 23 novembre 2023, les FAMA ont annoncé avoir effectué 3 frappes sur des positions terroristes. Ces frappes se répartissent comme suit. 2 frappes à 10 km au sud des Souks, dans la région de Kidal, et 1 frappe dans une forêt au sud de Sokolo, dans la région de Ségou.
Nous sollicitons une assistance humanitaire d'urgence aux nouveaux déplacés venus ces derniers jours à Menaka, a déclaré Sidi Barka, président du conseil régional de la société civile du cercle de Menaka. Selon lui, la situation humanitaire de ces personnes, en majorité des femmes et des enfants, est alarmante. Il est joint par Mohamed Ag Issa Fétan.
Ici à Menaka, nous assistons à l'arrivée des camions pleins de bagages, pleins d'enfants, pleins de vieilles. Cela mérite une assistance très, très, très urgente. Car ces personnes, presque d'autres, n'ont jamais quitté Andérabukane. C'est des grands travailleurs, des jardiniers, des pêcheurs qui aujourd'hui sont dans l'obligation de chercher un refuge à Menaka et ailleurs. C'est vraiment alarmant. Donc, vraiment, nous lançons un appel de détresse au gouvernement malien, aux partenaires maliens de venir en aide à ces populations.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Autre actualité de ce journal, la revue annuelle 2020-2024 de l'ONU Femmes s'est tenue ce vendredi à Bamako. Il s'agissait d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan stratégique 2020-2024 et définir les perspectives à l'horizon 2024. L'organisation a été invitée par les autorités à multiplier les interventions au bénéfice des populations maliennes. Sali Sitoko était à la rencontre pour Studio Tamani.
L'ONU Femmes a contribué à lutter contre les VVG et à relever les niveaux économiques des femmes au cours de ces dernières années, a affirmé Marie-Gorétine Izikama, représentante de l'ONU Femmes au Mali.
Nous allons continuer à accompagner les femmes dans l'autonomisation économique, la réponse humanitaire, à travailler avec les acteurs agents de changement pour la lutte contre les violences basées sur le genre.
En dépit de ces progrès salués par les autorités maliennes, le représentant du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille invite l'ONG a intensifié ses actions pour soutenir le maximum de personnes. Madjo Sango, secrétaire général du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille.
Pour assurer aux femmes une représentativité au niveau des instances de décision et des instances électives. Nous espérons que les activités qui vont être vues vont servir beaucoup à faire progresser vraiment cette quête d'égalité homme-femme.
Cette cérémonie a permis aux représentants du ministère des Affaires étrangères d'assurer l'engagement de son département à accompagner l'ONU Femmes dans sa mission.
Je vous le disais dans le sommaire, la session de formation des agents de l'Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité au Mali a pris fin ce matin. Près d'une vingtaine de personnes ont renforcé leur capacité sur la norme internationale ISO 22000 sur les exigences de la sécurité des denrées alimentaires. Cette session a été réalisée en partenariat avec PACAO Mali, programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest. Reportage signé Sita Sidi.
Cette formation a pour seul but d'outiller des entrepreneurs maliens afin qu'ils livrent des produits sains aux populations. C'est ce qu'a affirmé Dr Younoussa Maïga, directeur de l'Agence malienne de normalisation et de promotion de la qualité au Mali, AMANORM.
Nous avons initié cette formation pour avoir des agents certifiés eux-mêmes qui pourront d'abord accompagner les entreprises sur le système de management des denrées alimentaires. Nous estimons très bien que cette formation permettra aux entreprises de produire des produits compétitifs, produits sûrs, qui répondront d'abord aux exigences des clients. Celui qui produit des produits de qualité, il peut percer tous les marchés du monde.
L'initiative est appréciée par les différents participants. Selon eux, les normes recommandées par les autorités seront désormais appliquées dans leurs entreprises de production.
On a eu abordé le sujet de l'ISO 22000 et de la 22005, la traçabilité.
Effectivement, très très satisfait. On a été vraiment renforcé durant ces 10 jours de formation.
La formation a été bien appliquée. Nous sommes ressortis avec des valeurs ajoutées. C'est-à-dire nous avons mieux compris ce que c'était la traçabilité, la qualité.
À l'issue de cet atelier, une attestation a été décernée à chaque participant.
Actualité sportive à présent, mondial U17 Indonésie 2023, le duel Mali-Maroc, c'est ce samedi à 12h. Ce n'est pas une première que les deux sélections se rencontrent. Néanmoins, le sélectionneur des Aiglonais, Soumaïla Koulibaly, se dit confiant pour remporter la victoire demain et passer en demi-finale. Écoutons sa réaction.
Le groupe va bien et puis voilà, pas de blessés. L'essentiel, c'est qu'ils seront motivés demain pour sauter ces tables-là. Bon, j'espère qu'aussi ils sont prêts pour ça aussi. C'est tout à fait différent parce que c'est une Coupe du Monde et puis voilà, tout le monde est favori ici. Bon, vraiment, on est dans une bonne dynamique et bon, je pense que voilà, si on joue comme on le fait toujours, bon, il n'y aura pas de problème demain pour passer. Bon, l'essentiel, c'est que nous, on prend les 3 points demain, Inch'Allah. Bon, toujours, il faut qu'ils prient pour nous et puis voilà, qu'on passe une cape demain, Inch'Allah.
On en vient à présent à notre rubrique « On en parle ». Au Mali, des services sanitaires s'apprêtent à recevoir de nouveaux responsables. Ces nominations ont eu lieu le mercredi lors du Conseil des ministres. Des habitants de Bamako, Badjangara et Sikasso attendent beaucoup de ces changements dans les structures de santé. Ils exhortent les futurs responsables à travailler pour une meilleure prise en charge des malades. Écoutons leurs réactions au micro de Khalifa Goïta et de nos correspondants.
Moi, je crois que si l'État a eu à faire ce changement, ça veut dire qu'il y avait des problèmes. Remplacer ces directeurs, résoudre les problèmes, moi, je crois que c'est nécessaire.
Ça peut changer la qualité des soins.
Moi, je ne pense pas qu'il y aura de changement s'il n'y a pas de suivi. Ça a été toujours comme ça au Mali.
À mon avis, que le problème des ressources humaines, des ressources matérielles, problème d'hygiène, les nouveaux directeurs, s'ils parviennent à prendre en compte, ça pourra vraiment être une amélioration des plateaux techniques, une porte de sortie pour patients.
Badjangara, nous devons croire que ce changement peut apporter un impact positif au niveau de la population. Nous qui sommes un peu très loin de Bamako, des humains qui doivent bénéficier un maximum de prise en charge et que tout le respect leur doit au moins se donner.
À présent, le résumé de l'actualité de la semaine avec Moussa Aga Mahaha.
On introduit cette rétrospective par la Journée mondiale de l'enfance, célébrée le 20 novembre dernier. Une journée de plaidoyer a été organisée par l'Association pour la promotion des droits et pour le bien-être de la famille, APSEF, pour sensibiliser les citoyens sur les conditions des aides ménagères au Mali. Autre actualité de la semaine, c'est la première réunion des experts des pays et organisations de l'Alliance des États du Sahel, AES. Débutée ce jeudi à Bamako, cette rencontre vise à créer une synergie d'action entre les pays de l'AES sur l'action l'accélération du processus d'intégration économique et financière au sein de l'Alliance. On termine cette rétrospective par l'ouverture hier de la 4e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA. L'artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d'intégration des peuples et de croissance économique est le thème central de cette année.
C'est tout pour ce journal présenté par Juliette Koulibaly. Salim Djouara était à la technique. Juste après le magazine Echo, vous aurez la rediffusion du Grand Dialogue du 6 novembre dernier sur le thème « Comment améliorer la vie des retraités ?» Une présentation de Mariam Koulibaly. Et pour réécouter ce journal, appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Vous pouvez également retrouver toutes nos productions sur l'application Studio Tamani disponible sur Play Store.
Attention, la dengue existe au Mali. De nombreux cas sont enregistrés dans le pays. Ousmane Touré, un malade guéri, nous parle des symptômes de la maladie.
Moi, j'ai eu la dengue. Ça s'est d'abord manifesté par beaucoup de courbatures, de violents maux de tête, des nausées. Je me sentais très, très, très faible également. Mais le fort, c'est vraiment les courbatures qui m'ont fatigué. On a mal absolument partout, de la tête aux pieds.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Seule une prise en charge rapide augmente les chances de guérison, affirme M. Touré.
Ce n'est ni un palu, ni autre chose, c'est la dengue. Et c'est vrai que c'est provoqué par les moustiques. Et il faut prendre cette maladie au sérieux parce qu'elle est en train de faire énormément de mal, énormément de dégâts autour de nous. Il faut se faire dépister. En cas de besoin, n'allons pas seulement faire le test du palu, faisons également le test de la dengue pour nous rassurer.
Ceci est un message des studios Tamani
en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
Coupure d'électricité, quelles conséquences sur les services publics? C'est le thème de notre magazine Économie de ce vendredi et c'est une réalisation de Ali Cissé.
La société énergie du Mali, EDM, ne parvient pas à satisfaire la demande en électricité des populations du pays. Une situation qui agace certains citoyens à Bamako qui voient leurs revenus chuter par faute d'électricité.
C'est un manque à gain, on a nos magasins à payer, on est carrément dans la merde.
8h, 10h de coupure, ça fatigue trop.
Je suis tailleur. Parfois, je suis obligé de remettre à certains de mes clients leur habit par manque d'électricité. Il est temps de trouver une solution.
La coupure d'électricité persiste, or il fait chaud.
Je travaille avec des frigos, ça réduit nos recettes.
Il est temps que les autorités, les cadres de l'EDM s'y engagent afin qu'on puisse trouver une solution définitive.
Même constat à Ségou. Dans cette région du centre du pays, les travailleurs du public comme du privé subissent également de plein fouet les conséquences de ces coupures d'électricité. C'est le cas d'Adama Traoré, gérant d'un hôtel de la place. Il affirme que son chiffre d'affaires a nettement diminué à cause des délestages.
Là où nous sommes actuellement avec des coupures d'électricité, il y a une très grande perte. On n'arrive plus à économiser. Les coupures, ça a vraiment diminué beaucoup nos rendements. Nous avons le groupe électrogène avec le carburant aussi. S'il faut 6h, 8h, le groupe est en train de marcher. Là, le coût est très élevé. Donc, nous travaillons sur les pertes maintenant. Par jour, il faut estimer jusqu'à à peu près 50, 75 jusqu'à 100 000. Donc, il y a une très grande différence entre le groupe et l'électricité.
Toujours dans le centre du pays, à Bandiangara cette fois-ci, les services publics et parapublics sont aussi touchés. Hamma Kassambara est agent comptable de l'ONG Gas Mali dans la région. Il souligne que sa société qui dispose d'un groupe électrogène dépense en moyenne 500 000 francs CFA par mois en carburant pour faire fonctionner le service.
Et nous, au niveau de l'ONG Gaz Mali, on a un groupe de 40 KVA. Au minimum, nous mettons 20 litres de gasoil par jour. Et de mars à nos jours, ça fait à peu près 2 736 000 de façon globale. Sans tenir compte vraiment les week-ends, on travaille. Et puis le monde de l'ONG, nous, on n'a pas donné, on travaille à tout moment. Vraiment, la coupure d'électricité, l'impact, les conséquences sont trop grandes. Si ce n'est pas les agents qui vont sur le terrain. Toutes les personnes d'appui de la direction sont au chômage. Tous ceux qui travaillent vraiment sur le courant sont au chômage.
Moussa Diara, chef d'entreprise à Sikasso, déplore lui aussi cette situation. Pour ce menuisier métallique, il est difficile d'honorer sa parole vis-à-vis de sa clientèle aujourd'hui à cause des coupures d'électricité.
À Sikasso, les désagréments occasionnés par ces coupures sont inqualifiables. Nous donnons des rendez-vous aux gens, mais nous ne sommes pas en mesure d'honorer notre parole. Souvent, je loue un groupe électrogène à 10 000 francs et nous y mettons 10 000 francs de carburant pour pour travailler. Compte tenu de toutes ces dépenses, nous nous retrouvons sans bénéfice.
Ces coupures pèsent sur l'économie nationale. Professeur Abdul Karim Djamoutene indique que les pertes économiques engendrées par ces délestages sont inestimables.
Ces coupures d'électricité vont entraîner au niveau des entreprises, au niveau de la production, des retards. Si au niveau des grandes entreprises, souvent elles ont pris des dispositions, au niveau des entreprises du secteur informel, pour la plupart qui sont des petites unités de production, elles n'ont pas assez de moyens. Donc vous imaginez déjà que lorsque les entreprises subissent des retards dans la production, des baisses de la production, c'est tout à fait normal que cela ait des répercussions sur le chiffre d'affaires. Du coup, forcément, ça va entraîner la baisse, le profit des entreprises, le revenu des entreprises, toutes choses qui devraient théoriquement entraîner la baisse du niveau des recettes fiscales éventuellement.
À Gao, dans le nord du pays, les délestages ont duré plusieurs jours de suite. Les villages des zones rurales dépendent souvent de générateurs ou d'entreprises locales. Mais dans les villes, la compagnie nationale cristallise encore les reproches.